peux juste le passer au chaise là. Que vous inspire cette image? Un dernier effort pour terminer notre étude de l'Épître aux Hébreux. Lucas, la prochaine, s'il te plaît. Depuis le mois de janvier, nous sommes en route avec une série de prédications sur l'Épître aux Hébreux. Aujourd'hui, c'est la 12e prédication de cette série. 12 prédications, j'ai regardé sur le site internet de l'Église, ça va faire 368 minutes d'écoute. Si je prends en moyenne 16, 18, 20 heures de préparation pour chaque prédication, donc on a passé 192 heures à peu près à nous préparer. Et puis la prière avant, pendant et après. Ce qui me surprend, c'est qu'à un moment donné, tout à la fin de l'épître, l'auteur va écrire la chose suivante. Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Alors, pour ce qui est du brièvement, donc c'est Hébreux 13, verset 22. Je vous ai écrit brièvement. Et ce brièvement est pour nous devenu série de prédications. La prière, justement, parlons-en. Quand on regarde les prédications qui sont sur le site internet, les prédicateurs ont pris l'habitude, et je pense qu'elle est bonne, de dire à la fin, prions. Donc j'ai réécouté toutes les prières de ces prédications depuis le mois de janvier, parce que très souvent ces prières donnent l'image du cœur de l'Évangile. Alors je vous invite à en écouter quelques-unes.
Seigneur Dieu, notre Père, quelle grâce de nous rappeler que toi, tu nous aimes. Quelle grâce de nous rappeler que toi, tu interviens dans nos vies, par amour, parce que tu nous veux auprès de toi. Tu veux qu'un jour nous te voyions. Seigneur, Père, poursuis ton œuvre dans mon cœur et dans la vie de chacun d'entre nous qui voulons te suivre. Sincèrement, purifie, libère, pardonne le manquement. Nous voulons te l'apporter et te demander, fais une grâce maintenant. Nous voulons continuer à fixer le regard sur Jésus, notre Seigneur. Seigneur, je te prie que tu bénisses chacun d'entre nous maintenant, que tu nous accompagnes dans cette journée, dans la semaine qui vient, que nous n'oublions pas ta parole, non pas mes paroles à moi. Je te prie au nom de Jésus. Amen.
Oui, Seigneur, tu nous donnes ta parole pour nous permettre de nous souvenir de ce que tu as dit. Nous voulons te remercier pour cet auteur de l'Épître aux Hébreux qui argumente, qui cite dans l'Ancien Testament. On est persuadé que Jésus est le Fils de Dieu qui règne, mais en même temps qu'il a été un homme, pleinement homme, et qui peut compatir à nos faiblesses et nous purifier des péchés. Seigneur, que cette parole soit pour nous vivante et efficace selon ta promesse, et qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir accompli ta volonté, et comme la pluie, arroser la terre et y faire pousser les plantes que tu y veux. Merci Seigneur pour ton amour envers nous. Amen.
Seigneur, ce matin encore, nous voulons venir à toi et quelque part exposer notre vie, notre foi, à cette lumière que tu nous donnes dans ta parole. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes cette soif, que tu nous donnes cette faim, que tu nous donnes, Seigneur, ce désir de grandir dans la connaissance de ta personne et de te laisser agir dans notre vie. Seigneur, que notre vie glorifie ton nom et que nous puissions d'envie, que nous puissions donner envie à d'autres de te connaître, de te suivre et de te servir.
Qu'est-ce qui se passe dans nos vies et dans notre Église si Dieu exauce ses prières? Qu'est-ce qui est possible dans ces moments-là? Vous avez reconnu la voix de Cécile, d'Éric et d'Albert. Alors j'aimerais vous remercier d'avoir relevé aussi le défi de préparer des prédications sur l'Épître aux Hébreux. On sait que dans les préparations, il y a toujours les deux notions de l'inspiration divine, mais aussi de la transpiration, c'est-à-dire du travail. Et ces heures que vous avez vues afficher tout à l'heure, ce ne sont pas toujours des heures simples. Ce sont parfois des heures de doute, de recherche, d'écoute. Parfois on ne sait plus, parfois on ne sait pas. Et puis on est là avec cette parole, vieille de 2000 ans, et nous croyons que par l'œuvre de l'Esprit, cette parole est et peut devenir parole de salut pour la vie éternelle. Est-ce que tu peux nous mettre la prochaine slide, s'il te plaît? Nous avions pour cette année scolaire le thème, où nous l'avons encore, « Demeurer en Jésus et porter du fruit ». En automne dernier, nous avions parlé de qui est Jésus, avec ses paroles à répétition « Je suis ». La vérité, la lumière, la vie, la porte, le pain. Jésus, cette plénitude, et on comprend alors les disciples qui disent « Mais où irions-nous ? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle, et toi seul. » Seul Jésus suffit. C'est de lui, c'est par lui, c'est pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Alors nous allons bientôt commencer une série avec l'Épître aux Colossiens. Et à ce moment-là, nous verrons encore cette plénitude du Seigneur. Il est la tête du corps qu'est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. C'est avec cet épître que nous allons terminer cette année scolaire pour nous parler de Jésus. Mais en attendant Colossiens, un dernier effort à fournir pour terminer Hébreux. Dans Hébreux 13, regardez ces belles paroles. Christ le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien. N'oubliez pas l'hospitalité, par Christ offrant donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Chapitre 13, des paroles magnifiques. Des versets connus, appréciés, mais avant d'y arriver, il nous faudra encore terminer le chapitre 12. Et là, c'est une autre histoire. surtout à un autre vocabulaire. Et on retrouve cette dimension de l'effort à fournir. Nous trouvons dans cette fin du chapitre 12 des éléments que nous avons déjà rencontrés depuis Hébreux 1. L'auteur revient sur des éléments qui sont importants avec à chaque fois une autre approche, avec à chaque fois un autre éclairage. Les enjeux spirituels éternels, tels que l'auteur les discerne pour les destinataires. Vivre sa foi, persévérer, progresser vers la maturité spirituelle dans un contexte qui est hostile à la foi. Une foi qui confesse que Jésus est Jésus seul, est Sauveur et Seigneur. Nous vivons cette foi dans un contexte qui est hostile à cette foi en Jésus-Christ. La vie chrétienne, la foi chrétienne était, est et sera une lutte et un combat. Du temps de l'Épître aux Hébreux, premier siècle de Jésus-Christ, comme aujourd'hui, la pression, la persécution des chrétiens, la tentation, la lassitude, le découragement, le compromis, le retour en arrière. Les enjeux restent les mêmes pour persévérer, pour rester fidèle à celui qui est fidèle envers nous. Et tout au long de l'Épître aux Hébreux, l'auteur ne cesse de rappeler l'histoire de la première alliance, celle du Sinaï, de la loi de Moïse, et la plénitude de l'alliance parfaite en Jésus-Christ. Déjà dans l'Ancien Testament, cette alliance au Sinaï, un moyen de grâce que Dieu donne à son peuple. Mais cette alliance, cette première alliance du Sinaï, elle est limitée dans le temps. Les constituants de l'alliance, Moïse, les prophètes, les sacrificateurs, les sacrifices, restent imparfaits. En attendant celui qui est le Messie, l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, la parole de Dieu, et qui viendra accomplir de manière parfaite et éternellement le dessein de Dieu. Jésus est supérieur et il accomplit pleinement et parfaitement la justice et la grâce de Dieu pour une alliance pour l'éternité. Mais nous devons résister à la tentation de penser qu'il y a deux dieux différents dans la Bible. Style Dieu de l'Ancien Testament, la loi, et Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de la grâce et de l'amour. C'est le même Dieu, c'est le même salut, c'est la même histoire qu'il écrit dans une révélation progressive, comme nous l'a rappelé Hébreux 1. Dieu a parlé par les prophètes, ensuite il m'a parlé de Moïse, et il a parlé par le Fils. Révélation parfaite de Dieu en Jésus-Christ. Une autre constante dans cet épître aux Hébreux, c'est ce peuple qui reçoit l'œuvre de Dieu, qui reçoit la grâce de Dieu, qui reçoit la parole de Dieu. Il reste un peuple hésitant, incrédule, rebelle, provoquant Dieu, et bien souvent détournant la vérité de Dieu à son propre avantage. Le peuple est effrayé, certes, mais les plaies qui frappent les Égyptiens, puis les masses d'eau qui engloutissent les soldats du Pharaon, ils sont effrayés par le spectacle au Sinaï où Dieu se révèle, où la terre tremble, cette montagne en fumée. Quand Dieu donne sa loi à Moïse pour le peuple, Dieu s'est approché de Moïse, s'est approché de son peuple, mais il lui avait interdit de toucher à la montagne. Cette montagne qui tremble, qui est comme enveloppée par la gloire de Dieu. Et ce même Dieu qui s'était révélé au Sinaï, qui est allé à la rencontre de son peuple, ce même Dieu trois fois saint, juste et véritable, s'est approché de nous en Jésus-Christ. Et nous pouvons nous approcher de lui par un chemin nouveau, entrer dans le lieu très saint pour connaître le repos de Dieu sans crainte. Et ce que nous trouvons tout au long de cet épître aux Hébreux, c'est que la foi, c'est faire un choix, c'est faire des choix. Le choix initial de la conversion, certes, mais au quotidien, choisir qui nous voulons suivre, qui nous voulons écouter, qui nous voulons servir. Cette foi qui implique toute ma vie, toute mon existence, ne pas refuser et accepter l'exhortation, ne pas endurcir son cœur, mais venir, et là où il le faut, revenir à Dieu. Et le texte de l'Épître aux Hébreux nous montre un danger réel, celui de l'apostasie, où un temps on goûte à la grâce de Dieu, où un temps on goûte à la grâce d'une vie d'église, la beauté des chants, la communion fraternelle, les prières. Mais finalement, on ne se laisse pas réconcilier et transformer par Christ. On ne se laisse pas engager dans une vie, certes, où la foi est confiance, mais où elle est aussi obéissance. Tout au long de cet épître, l'auteur ne cesse de montrer cette ancienne alliance qu'elle a été moyen de grâce pour le peuple de Dieu, un peuple rebelle, mais que c'était une alliance limitée et portée par des hommes imparfaits, pour montrer, avec la venue du Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur, le Seigneur, le Messie, loin de l'Éternel, qu'il accomplit parfaitement une alliance éternelle. Il n'y a pas de comparaison possible entre les deux. C'est tellement limité et encore marqué par l'imperfection humaine dans l'ancienne alliance. Et c'est tellement parfait et glorieux dans la vie de Jésus. Je me rappelle un de nos garçons, le plus jeune, qu'est-ce qu'il aimait jouer avec son petit seau avec du sable. Ah, il était heureux. Alors c'était en Alsace. Quand pour la première fois Joël s'est retrouvé en Bretagne, sur la plage du Guilvinec, avec du sable, pas dans un petit seau, mais à perte de vue, il était là, ce petit garçon. Et c'est ça, cette découverte de qui est Jésus. Il y en a encore. Quoi, jusqu'à... On voit même pas la fin. Jésus, il est tout. Une citation d'un auteur. Dans les derniers versets d'Hébreux 12 s'achève le rappel de la condition religieuse caractéristique de l'ancienne alliance. Certes, il y a eu théophanie, donc l'apparition divine, et parole divine. Mais le climat était celui de l'effroi, de l'interdiction, de l'exclusion. Ce tableau sévère ne reflète sans doute pas la totalité de la pensée de l'auteur sur la révélation au Sinaï et sur l'ancienne alliance. Il a surtout pour fonction de situer l'arrière-plan sur lequel va ressortir en couleur éclatante la gloire de la Jérusalem céleste. On voit combien, cependant, la loi et le culte d'autrefois apparaissent sous un jour sombre. L'auteur de l'Épître aux Hébreux est pleinement convaincu qu'il n'y a pas lieu de pleurer la disparition de la première alliance en considérant la venue et l'œuvre de Jésus-Christ. Avant de passer à Hébreux 13, un effort encore pour lire les derniers versets d'Hébreux 12. À chaque fois, j'aimerais solliciter quelqu'un pour la lecture.
L'obscurité, des ténèbres et un ouragan. n'avait pas entendu de sonnerie, de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé que ne s'adresse plus à eux.
En effet, ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié : Je suis épouvanté et tout tremblant.
Non, vous, au contraire, vous vous êtes approché de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste et des milliers d'anges en fête. Vous vous êtes approché de l'assemblée des premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous vous êtes approché de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approché de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel.
Prenez donc garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison sera-t-il de même pour nous si nous nous détournons de celui qui nous parle du haut des cieux? Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifie que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra pour que subsistent seules les réalités inébranlables.
Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Car notre Dieu est un feu qui consume.
On a réussi d'arriver au bout du chapitre 12, encore avec un regard sur l'œuvre de Dieu qui exige de nous une étude et une approche plus qu'un verset, mais une approche qui regarde toute la parole de Dieu, tout le plan de Dieu pour les hommes. Après 12, j'espère que vous n'êtes pas superstitieux, il y a 13. Et dans ce chapitre 13, nous allons retrouver 11 impératifs, ce que Dieu demande à ce peuple qui a Jésus-Christ pleinement, à ce peuple qui a un salut plein et éternel. Il demande à ce peuple de vivre sa foi, d'avoir une vie différente. Nous l'avons déjà entendu tout à l'heure dans une des prières que nous avons tous entendues, que nous avons écoutées. Nous avons en Jésus-Christ le salut. Ça doit se voir dans notre vie. Notre vie doit être différente. La foi se voit, elle se confesse, elle se vit pour que Dieu en Jésus-Christ soit glorifié. Une vie différente. Et nous devons par moments accepter cette différence. Et par moments accepter que cette différence devienne une croix à porter. Patrick nous a lu tout à l'heure ce texte dans l'introduction. Prendre sa croix. Appartenir à Jésus-Christ. Vivre pour Jésus-Christ nous conduit parfois à des situations où nous avons une vie différente du monde qui nous entoure. Il est possible que ces différences deviennent alors une croix à porter qui rencontre l'incompréhension, la moquerie, la honte, la pression, l'oppression, le rejet, l'exclusion. Si c'est pour le Seigneur, qu'avons-nous à craindre? Si c'est pour le glorifier, avons-nous une autre ambition? Il y a des moments où nous sommes appelés à vivre l'amour fraternel au-delà des frontières, des cultures, des traditions, au-delà des nations. L'amour fraternel, simplement parce que nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Et quel témoignage aujourd'hui, de la part de l'Église, dans un monde qui se divise de plus en plus, de dire « Je suis frère, je suis sœur, avec toi, avec toi, avec toi, tu viens de ce pays, tu viens de ce coin de France, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ et nous vivons l'amour fraternel qui nous est donné et qui nous est demandé. » Quelle différence, quelle vocation pour l'Église dans les temps que nous connaissons aujourd'hui. Puis, vivre une vie selon les critères éthiques de la parole de Dieu, selon la morale divine. Quel témoignage des couples qui fêtent leurs noces d'or en témoignant de leur fidélité l'un envers l'autre. Dans un monde où on a l'impression que l'adultère, le coucher à gauche et à droite, tout le monde le fait. Qu'avons-nous comme témoignage à apporter aujourd'hui en tant qu'Église à ce niveau-là? Des jeunes qui vivent la sexualité selon le cœur de Dieu. Des chefs d'entreprise qui gèrent leurs affaires et le personnel à la gloire de Dieu avec justice, vérité, équité et bonté. Des paroles, des regards, des actes qui disent « Jésus-Christ est Seigneur, que peuvent me dire, me faire les hommes ?» Et nous, en tant que chrétiens, en tant qu'Église, la folie d'une fidélité à une parole divine qui est vieille de plus de 2000 ans, où nous disons « c'est cette parole-là qui fait autorité en matière de foi et de vie ». Et c'est cette parole-là qui résiste aux assauts de la modernité, de la pseudo-liberté, qui ne respecte plus aucune limite ou autorité, et surtout pas divine, et surtout pas chrétienne. Et une vie différente, parce que nous sommes prêts au sacrifice, le renoncement, renoncer à des choses pour le bien de l'Église, pour la gloire de Dieu, parce que nous voulons mettre Dieu en premier dans notre vie. Alors écoutons cette lecture du chapitre 13, accrochez-vous encore, il y a beaucoup à lire, mais encore plus à écouter et à entendre. De nouveau, si des lecteurs ou lectrices veulent bien prendre la parole.
Aussi pouvons-nous dire avec assurance, le Seigneur vient à mon secours, je n'aurai pas de crainte, que me feraient les hommes? Souvenez-vous de vos anciens conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu, considérez l'aboutissement de toute leur vie et imitez leur foi. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ne vous laissez pas entraîner par toutes sortes de doctrines qui sont étrangères à notre foi. Ce qui est bien, en effet, c'est que notre cœur soit affermi par la grâce divine et non par les aliments qui n'ont jamais profité à ceux qui avaient coutume de les consommer.
Nous avons à l'autel, mais les prêtres qui servent dans le sanctuaire n'ont pas le droit de manger ce qui est offert. En effet, le sang des animaux offerts en sacrifice pour le péché est apporté dans le sanctuaire par le grand prêtre, mais leurs corps sont brûlés à l'extérieur du camp. C'est pourquoi Jésus, lui aussi, est mort à l'extérieur de la ville pour purifier le peuple par son propre sang.
Venons donc à lui en sortant à l'extérieur du camp et acceptons d'être mépris. pas. Nous n'avons pas la cité permanente, c'est la cité à venir que nous recherchons. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices à Dieu pour plaisir. Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage.
Priez pour nous, car nous sommes convaincus d'avoir une bonne conscience, puisque nous sommes résolus à bien nous conduire en toute occasion. Je vous demande tout particulièrement de prier pour que je vous sois bien vite rendu. Le Dieu qui donne la paix a ressuscité notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger des brebis, en scellant de son sang une alliance éternelle.
Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen.
Je vous le demande, frères et sœurs, accueillez avec patience la parole d'encouragement que je vous adresse. Je vous ai d'ailleurs écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été libéré. S'il arrive assez tôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos dirigeants et tous ceux qui font partie du peuple saint. Mes frères et sœurs d'Italie vous saluent. Que la grâce de Dieu vous accompagne tous. Amen.
12 prédications sur l'Épître aux Hébreux. Nous ne savons pas comment les Hébreux l'avaient fait pour lire et étudier cette parole au 1er siècle. Parce qu'ils avaient un seul exemplaire de l'Épître. Comment est-ce qu'ils ont fait? Combien de temps ont-ils mis? On ne le sait pas. Mais c'est cette prière que cette parole porte du fruit dans notre vie. Et l'Épître, c'est vrai, on pourrait dire que c'est une étude ardue, mais une Épître qui se termine sur le note de la louange. La louange à Dieu. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté, qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Seul moment de louange et de doxologie dans cet épître aux Hébreux. Pour terminer avec une phrase qui est bien plus qu'une simple salutation traditionnelle, que la grâce de Dieu soit avec vous tous. Le « Amen », c'est selon les traductions que vous choisissez. Moi, je l'ai choisi ce matin parce qu'il y a quelque chose de fort que l'on place, qu'il en soit ainsi. Le cœur de l'Épître, c'est une grâce que nous trouvons à la fin. Non pas une grâce au rabais, non pas une grâce permissible, mais la grâce divine manifestée en Jésus-Christ. Le prix payé par Jésus pour ce salut, pour cette grâce. Je ne peux pas simplement piétiner ce que Dieu a dit et ce qu'il dit encore aujourd'hui pour faire comme moi je veux dans ma vie chrétienne. Il y a un prix à payer dans ma marche chrétienne et Jésus avait prévenu ses disciples. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Là, on trouve un écho avec d'autres textes où l'auteur est en train d'exhorter les chrétiens, où il dit « certains, quelques-uns » pour nous mettre en garde par rapport à cet écho de la parole. Mais cette grâce, ce n'est pas que la grâce de Dieu soit avec les meilleurs, que la grâce de Dieu soit avec les plus zélés, que la grâce de Dieu soit avec les chrétiens qui sont chrétiens depuis 30 ans ou 40 ans. Que la grâce de Dieu soit avec tous. Et c'est une parole qui s'adresse à l'Église de tous les temps. Dieu nous a accordé sa grâce lorsque Jésus-Christ est venu dans le monde pour nous racheter. Il accorde cette grâce à tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ. Et la plénitude de sa grâce est accessible à toutes et à tous et suffit pour chaque situation de notre vie. La grâce nous a rachetés, la grâce de Dieu nous sanctifie et la grâce de Dieu nous rendra parfaits. Et nous ne pouvons pas dissocier cette dernière phrase de l'Épître de tout ce qu'il vient de dire, d'exposer dans les chapitres précédents. Mais il me semble qu'il choisit cette fin, cette dernière parole, pour nous conduire à cette source intarissable. La grâce de Dieu ne nous facilite pas la vie. Elle ne nous soustrait pas à la détresse ni aux épreuves. Mais c'est la grâce que nous soyons en sécurité dans la détresse et que nous trouvions la paix sous les poids de nos fardeaux et que nous puissions marcher fidèlement jour après jour pour le Seigneur, pour sa gloire. Alors faisons de Jésus-Christ le commencement et la fin de notre foi, centrant toute notre existence sur lui, pas sur des rites religieux, pas pour retomber dans le péché, non pas pour nous confier en nous-mêmes et en nos efforts, non, en Jésus et en Jésus seul. La bénédiction de Dieu s'est révélée en son Fils, qui désire ardemment se révéler lui-même à nous et en nous, pour que notre salut et notre délivrance soient complets. La bénédiction s'est révélée en son Fils et qui désire maintenant ardemment se révéler lui-même en nous et par nous pour que notre salut et notre délivrance soient complets. Amen.